Ouais. Et alors, les inondations, vous en avez connu des fortes, des inondations?
On en a connu. En 1907, je ne me rappelle plus si c'était en 33, en 34, j'ai connu. La Dordogne a débordé un jour, le 10 juillet. Le 10 juillet, c'était en 33. Le 10 juillet, en 33, oui, c'était en 33. Monsieur Marien, en 34. En 33. On est allé, mais alors ça a été que la matinée. Elle a débordé partout, dans les prés, partout, comme c'est un orage qui s'était produit ici, comme il s'en fait par, un peu partout maintenant, dans la vallée de la Corrèze, par là, et la Dordogne, bien entendu, a débordé. Nous sommes allés à la pêche, l'eau, c'était que de la boue, tellement que ça avait raviné d'un côté et de l'autre. Nous attrapions les poissons avaient, on aurait dit qu'ils avaient changé de couleur, voyez, de tellement qu'ils étaient pleins, pleins de boue. Alors, j'ai connu celle-là, et puis j'en ai connu une autre. Vous savez où j'ai la maison, là-bas au pont, non?
Oui.
Bon, je suis parti de la maison avec le bateau. J'ai fait toutes les fermes là-bas pour porter du pain, avec le bateau.
Courageux.
Ça a dû déborder sacrément.
Oui. Seulement, les prés n'étaient pas clôturés comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de clôture, vous comprenez? C'était des prés, il n'y avait pas de noyer comme il y a maintenant. Maintenant, il se plein de noyer partout, dans le temps, ce n'était pas ça. C'était des terres, puis les noyers sont venus depuis 40 ans ou 50 ans. Les plantations de noyers, parce qu'après, il y en avait un, par-ci, un par-là, mais des fois, on le mettait en bordure d'un chemin ou en bordure pour que ça ne gêne pas les bêtes pour travailler, vous voyez bien, parce qu'on travaillait les champs avec des bêtes. Et c'était une paire de vaches qui, elle ne pesait pas tant que ça. Hein. Souvent, elles étaient plutôt maigres que rien plus. Eh oui. Eh bien, j'ai ravitaillé tout le monde. Je suis allé chez M. Châtain, je me rappelle. Chez Châtain, les tonneaux étaient dans. Les tonneaux étaient sortis par la porte de la cave, ils se promenaient dans la basse-cour. Là. Maintenant, ils n'étaient pas pleins, ils étaient vides, ça. Tout le monde
a dit. Il y a quelques endroits dans la Dordogne où on dit qu'ils sont très dangereux. Ou...
Eh bien,
dans le secteur ici, oui.
Mais non, pas plus que ça, ici. Quand elle débordait, mais elle ne faisait pas de dégâts terribles, vous comprenez. Il n'y a qu'une année, mais c'est pareil. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de clôture. Il y a, comment dirais-je, une poulière, c'est de la paille qu'ils avaient laissée dehors. Et elle est partie, autrement c'est tout. Autrement, les maisons, je n'ai pas vu jamais qu'ils se soient... J'ai vu à des endroits, si elles se sont écroulées, c'est que la rivière a emporté le talus, vous comprenez? Parce qu'elle se porte à des endroits, c'est comme maintenant, nous aurions des crues comme nous avions. Je me demande où c'est que ça irait bien. Je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a une piscine là, oui. En face. Eh bien, je suis sûr que la piscine, elle serait pleine de vases, pleine de ceci, pleine de cela. Moi, quand j'ai fait ma maison que j'ai là-bas, c'est moi qui l'ai faite. C'était en 47-48. Eh bien, je trouvais le sable dans toutes ces prairies là-bas. Hein? Mais maintenant, comme la végétation a poussé depuis 20 ans ou 30 ans, depuis 20 ans ou 30 ans que l'eau est basse comme ça, les alluvions sur le bord des rivières poussent, c'est formidable, des arbres qui sont comme ça, comme ça. Alors, si la Dordogne est obligée de passer, elle est partie de là-haut, il faut qu'elle passe. Et l'endroit qui n'y a rien, tout se démolit. Voilà comment ça se passe. Alors j'ai vu des maisons qui sont parties, que maintenant elles sont à 3-4 mètres de la rivière, dans la rivière. Les murs et tout, encore ils sont.
Vous connaissez la Dordogne comme votre
On l'a, mon pauvre, depuis Beaulieu jusqu'ici, de Beaulieu, même Argentan, je connais. Je suis venu, je ne sais pas si vous connaissez M. Pucelnik non plus, vous ne connaissez pas?
Non.
Bon, M. Pucelnik, on a pêché avec lui jusqu'à la Maronne, là où la Maronne, c'est avant d'arriver à Malpa. On connaît toute la rivière. Alors nous prenions le bateau et on faisait un descendant.
Vous faisiez faire les bateaux, vous?
Les bateaux, ici nous avions un gars qui faisait les bateaux, il s'appelait M. Perronnet. Après ça a été le père Perronnet. Après ça a été Georges Perronnet, après ça a été son deuxième fils.
C'était... Vous connaissez Plagne?
Ah oui, mais Plagne, c'est lui qui me l'a fait, Roland.
Il en a fait deux, non?
Ouais, oui, il m'en a fait deux. Il m'en a fait deux pour une bonne raison, je vais vous dire pourquoi. On m'en a volé un.
Oui.
On me l'a volé, je ne l'ai jamais retrouvé.
Vous
Et lui,
pour la détacher, il est parti.
Non, mais je ne crois pas ça. Vous savez, un jour, on y est allé avec la personne avec qui je mettais les cordes. J'ai dit, mais tu rentres par la chaîne. Il me dit comme ça, mais j'ai détaché, mais il y a encore un autre cadenas. Il m'a foutu un autre cadenas à ma chaîne. Alors, quand on a voulu partir, impossible de partir. Il a été obligé d'aller chercher une cisaille pour couper, une scie à métaux pour couper le cadenas. Mais quelqu'un nous l'avait fermé, c'est pareil. Voilà comment ça.
Quand vous mettiez les cordes, qu'est-ce que vous mettiez comme appât?
Eh bien, comme appât, ça dépend, qu'est-ce que c'est. Je suppose à cette saison. À cette saison, il y a une bête qui est dans la rivière, qu'il faut aller à chercher, qui s'appelle la bobe. C'est une des meilleures. Bon, cette bobe, il faut la trouver, mais elle n'est pas partout. Elle n'est pas partout. Elle naît à des endroits, mais pas partout, je dis bien. Elle n'étera pas à 2 mètres de profondeur. Elle naîtra à 25 ou 30 cm de profondeur. Où c'est qu'on peut les trouver?
C'est un insecte.
C'est un insecte que les barbeaux en sont friands. Là, j'en aurai 10, je vous dirai demain matin, il y aura 5 poissons sur 10, s'il n'y en a pas 10.
Ils adorent ça.
Parce qu'ils en sont fous. Alors, il faut trouver des fois des ruisseaux qui ont ça. Il y a des ruisseaux qui en ont seulement, il faut connaître.
C'est comment une bête, ça?
C'est une bête plate. Ok, toute petite.
C'est comme ça.
Ouais, c'est tout petit.
C'est on tout les petit. Ramassait sous les cailloux.
Oui, sous les cailloux, on ramassait ça.
C'est le bobo. Un patois, c'est le nom.
Oui, le bobo, on appelait ça le bobo. Oui, mais seulement, c'est toujours pareil. C'est qu'il y a plusieurs sortes de poissons suivant les époques. Cette époque, c'est la bobe. Après ça, que le canere. Après ça, c'est une autre. Vous comprenez, c'est les éphémères naissent suivant la température d'eau. Et pendant la température d'eau, ils changent. Ce n'est pas les mêmes, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas fait pareil. Donc, ils changent. Quand la température de l'eau est plus grande, c'est la manne qui arrive, qui tombe au mois de septembre. Là. Seulement, ils naissent beaucoup plus tôt. Quand ils mettent les ailes, ce n'est plus bon pour mettre un hameçon. C'est trop tard.
Il faut que ça reste comme une larve.
Voilà.
Ah, mais vous êtes. C'est une mine, il sait tout, lui. Hein. Bah. C'est votre vie, ouais, vous savez. Vous êtes un savant de la rivière.
Oui. Puis il a aimé ça, quoi.
Mais on peut rien attraper, mon pauvre. Bop.
Et ouais.
Des tonnes de poissons. J'étais comme lui, là-bas, comme. Si on avait été un contre l'autre, ils auraient dit c'est les deux ravageurs. Les loutres, il y en avait. Mais vous ne connaissez pas Machin aussi, comment il s'appelle celui-là? Monsieur, celui qui avait le. Son père avait le restaurant. Le restaurant de. Copeiro.
À Copeiro?
Oui, vous ne connaissez pas celui-là? Et bien, celui-là est à Grèce aussi.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle.
C'est le pêcheur aussi?
Beysen.
Ah, Beysen.
Vous connaissez?
Ah,
mais Beysen.
Je ne le connais pas personnellement.
Ah, mais Beysen, j'ai connu son père, j'ai connu Beysen. Et je connais Beysen, je l'ai vu l'autre jour. Lui m'avait reconnu ma voix. Je disais, quel est ce monsieur qui connaît la Dordogne comme ça? Après, je me suis avancé et je me suis dit, Beysen.
On était ensemble aux quatre routes. Tu as fini un peu. Hein?
Et les mariniers, alors, c'était des gens, ils venaient tous de ce coin, là-haut, de ce pontour?
Oui, et tous de son tour. Alors, oui, parce que quand ils faisaient le voyage, ça durait 5 jours, à peu près le voyage pour descendre là-bas, si tout allait bien. Alors, ils descendaient, ils vendaient tout là-bas. Tout était vendu. Ils portaient que des échalas, et des bateaux. Ils avaient 5 bateaux, ils étaient 5 dessus, avec 5 bateaux. Et ils descendaient comme ça, mais chargés à plein bord et sous-sol. C'était toujours pareil, parce que le bateau était grand, faisait 10 ou 12 mètres de long. Et 400 mètres de large. Alors il était chargé, il était plombé dans le bas, et puis quand même léger pour tenir le voyage. Maintenant, il y avait le chambre pour faire tout ça, pour coincer les planches, entre les planches, on mettait du chambre.
Il
n'y en a plus. Il n'y en a plus, tout ça, c'est fini.
Oui. Ici, on en cultivait beaucoup à Carina du
Chambre. Eh bien, oui, ça en faisait un peu dans la plaine, un peu partout, d'un côté, de l'autre, parce que tout ça, il faut le
Le
Conabou,
vous
dites
comment vous l'appelez? Le
Conabou?
Non.
Le Conabal? Non, attends, comment c'était ça? Le Carbe. Le Carbe?
Ah oui, ça dépend des endroits, il y a des noms différents.
Le Carbe.
Et vous, chez vous, au restaurant, vous en avez vu de ces gens-là?
Un diable, mais si j'en ai vu. Moi, j'ai vu, j'y pensais encore cette nuit. C'était en, que je ne me trompe pas, en 1916, on avait les Américains ici. Vous me direz comment ça se fait que les Américains étaient ici. Eh bien, les Américains, personne ne pouvait réparer la digue de Carénac. Un monsieur qui était à ce moment-là, qui avait acheté l'usine, était de Sète, monsieur Nadal. Ce monsieur Nadal a fait venir les Américains, qui étaient à Gramala, remonte de Gramala. Maintenant, c'est la remonte, mais il y avait des chevaux autrefois, des chevaux réformés, ils étaient là-haut. Et puis c'est eux qui sont venus pendant la guerre, avant la guerre, puisqu'ils sont partis en 1918, du moment de la guerre. Quelque temps avant, comme l'Allemagne, comment dirais-je, comme l'Amérique était rentrée en guerre, l'Amérique est rentrée en guerre une dernière année, en 17 ou 18 par là, en 18 peut-être. Alors tout ça, il y a eu du chamboulement, tous ces Américains ont été rappelés, ils avaient fermé juste la digue, mais ils l'ont fermé avec des chevaux. Ils avaient deux chevaux qui tiraient de l'autre côté, à 50 mètres, pour monter le mouton.
Ah oui.
Parce que c'était fait avec des pieux. Des chaînes entiers et ferrées en bout, qui rendraient à la terre. Mais seulement ce chêne, c'est aussi dur, c'est même plus dur que le fil de fer, parce que ça ne gèle pas, ça. Et le noir reste là-dedans. Il y a des endroits que vous trouveriez encore des piquets.
Et donc, c'est là que vous avez vu ces mariniers-là,
et oui,
avec ces Américains.
Eh bien, oui, je les ai vus avec ces Américains. Après qu'ils ont eu construit la digue, parce que ils ne pouvaient pas descendre tant que la digue était cassée.
Il paraît qu'ils aimaient bien faire la fête, ils aimaient bien chasser et tout ça.
Chasser, ça dépend de ce qu'ils chassaient. Ils chassaient peut-être les femmes, s'il y en avait.
Non, non, mais chanter.
Chanter, oui, oui, chanter.
Confond pas.
Oui, oui, chanter. Mais bon, et puis d'abord, ils avaient tout. Ils avaient toutes les conserves voulues, parce que nous autres, c'était la guerre. Vous comprenez? La guerre a commencé en 14. Et je me rappelle quand il y a eu la démobilisation en 1918. Seulement, les Américains étaient partis depuis un an.
Parce que Barrière me l'a raconté, ça.
Oui,
il était petit, était venu, je crois, au restaurant chez vous, et ses mariniers étaient en train de chanter.
Oui, parce qu'on les gardait, nous autres, tous les jours, ils mangeaient à la maison. À un moment donné, ils étaient 17 ou 18, et il me semble voir la table était mise comme ça. Et ils mangeaient là, à midi, tous étaient là. Et alors nous autres, pendant la guerre de 14-18, ils nous manquaient du pain. On allait chez les Américains le chercher là-bas, qui étaient à la digue là-haut. Parce que tous leurs effets étaient restés à la digue. Je ne m'appelle pas, ils ne couchaient pas, même sous des tentes, je crois, eux aussi.
C'est grâce à ces Américains que la digue a été restaurée.
Qui a été restaurée, mais après il y a eu une autre. La digue a cassé quelques années après. C'est des gars qui venaient de sur le Rhône. Et ils disaient qu'ils avaient fermé là-bas, que sûrement ici ils arriveraient à fermer. C'était fait avec des gabions, ça. Mais c'est depuis qu'il y a les gabions ici que ça n'existait pas autrefois. Il a fallu la guerre, tout ça. Pour maintenir tout ça, on mettait des galets, un derrière l'autre, ou un sur l'autre, mais pas des gabions, parce que les gabions faisaient 4 mètres cubes, et d'un seul coup, on tournait ça dans l'eau. Alors quand ça tombait, forcément, 4 mètres cubes, vous ne pouvez pas reculer beaucoup, même qu'il y ait du courant. Il y a juste quand ça arrivait à coin de les deux roues, parce que la Dordogne montait, le plan d'eau montait, et le plan d'eau forçait de plus en plus. Et alors, quand vous avez dit le mot carrière, je voulais vous dire, monsieur Carrière, de Mézel, le de Florac.
Ah, oui. Ah, lui, je le connais. Ah, lui, il la raconte aussi. Vous le connaissez bien ?
Oh là là, mais il était né ici.
C'est ça.
Ouais. Il était de l'âge de mon frère. J'avais un frère qui est mort il y a 3 ans ou 4 ans. Il était du même âge. Il va avoir 100 ans.
Et de ma mère.
Et l'âge de sa mère.
De sa tête.
Il vient de mourir il y a 3 semaines.
Votre mère ?
Oui. Ah, oui.
99 ans. Mmh. Enfin, ça fait déjà un bon moment que ça n'est plus du tout.
Mais Carrière, lui, il est incroyable.
Lui, il fait ses courses tout seul, il fait son ménage, il fait à manger, il fait...
C'est un petit peu comme ça, mais...
Hein? Ouais. Tu te rappelles le jour qu'on était là-bas, et la télévision marchait à tue-tête, Et puis,
c'est des gens, ils sont solides. Hein. Ils sont solides. Comme vous, à l'âge que vous avez, vous êtes quand même très... Vous...
Eh mais moi, je prends la voiture tous les jours, encore. Encore, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Alger.
C'est les gens du pays, ici, ils sont solides, quand même. bon, je vais y aller.